franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Alain et bonjour à tous. On dit qu'il y a des gens qui sont du matin et d'autres qui sont plutôt du soir, des lève-tôt, des couche-tard. Les premiers ce sont des alouettes, les seconds ce sont des hiboux. Mais en matière de métaphores animalières, il se pourrait que l'on adopte désormais de nouvelles catégories. C'est du moins ce que préconise un psychologue américain dont le livre paraîtra la semaine prochaine en France. Il s'appelle Michael Breus. Et il a remplacé les oiseaux par des mammifères. Plus d'alouettes ni de hiboux, mais des lions, des ours, des loups et des dauphins. Spécialiste du sommeil, Michael Breus se passionne pour la chronobiologie. Et comme il l'explique dans Le Point, c'est il y a 4 ans qu'une patiente l'a poussé à en apprendre davantage. Elle souffrait d'un manque de sommeil et mes techniques ne fonctionnaient pas sur elle. Elle m'a dit que si elle l'avait pu, elle se serait couchée à 1h du matin et se serait levée à 9h, mais que c'était impossible car elle devait être à son bureau tôt le matin. J'ai donc appelé son patron pour lui demander de l'autoriser à venir travailler 1h30 plus tard. Et après une semaine, celui-ci était estomaqué par la hausse de sa productivité. Suite à cela, il s'est donc penché sur ce qu'on appelle le biotime, sur le flux hormonal et les mystères de nos rythmes circadiens. Nous passons beaucoup de temps, explique-t-il, à nous demander comment on fait telle chose et pourquoi on doit la faire, mais on ne s'intéresse pas assez au meilleur moment pour la faire. Et le titre de son livre, publié chez Belfond, c'est donc simplement « Quand ?» avec un point d'interrogation. Livre dans lequel il indique quel est le meilleur moment pour boire du café ou pour boire de l'alcool, pour manger, se peser, pour réfléchir ou pour créer, selon que l'on est lion, ours, loup ou bien dauphin.
Et que représentent, Frédéric, ces différentes catégories ?
Eh bien, les lions sont les lève-tôt, 20% de la population. Les ours vivent au rythme du jour, la moitié de la population. Les loups, eux, ont du mal à émerger avant 9h, 20% de la population. Quant aux dauphins, ce sont les insomniaques, 10% de la population. Et ce scientifique va même jusqu'à expliquer quel est le meilleur moment pour faire l'amour. Il déconseille ainsi vivement de faire des galipettes entre 23h et 1h du matin, le pire créneau, dit-il en termes de biologie. En revanche, le sexe au petit déjeuner donnerait un coup de fouet à votre journée. Et si votre partenaire n'a pas les mêmes dispositions génétiques, pas de souci, précise Thomas Mahler qui signe ce papier du Point. Le dévoué docteur est allé jusqu'à dresser un tableau de compatibilité sexuelle des chronotypes. Si vous êtes un lion et que vous rencontrez un séduisant dauphin, votre fenêtre de tir idéale est 20h ou 7h, tandis qu'un loup sympathisant avec un ours fera mieux de sortir les griffes à 22h ou à 9h. Cela dit, ce sont d'autres animaux qui font la une ce matin, des vaches, des cochons, des moutons.
Eh oui, c'est en effet ce samedi qu'ouvre le traditionnel salon de l'agriculture à Paris.
En route pour le salon, titre la presse de la Manche, avec une photo d'un éleveur accompagné d'une de ses bêtes qui l'emmène à la capitale. Ils exposeront framboises, titre le Maine Libre. Avec une photo d'Agnès et Luc Bernard, un couple d'éleveurs de la Sarthe, accompagné de la dite framboise, une superbe vache bretonne pinoire, tapis rouge pour l'agriculture. Annonce pour sa part à sa une le courrier Picard dans l'Humanité dimanche, grand dossier sur l'agriculture biologique. Selon l'hebdomadaire, le bio est l'avenir de la nourriture. Ce modèle agricole est d'ailleurs de plus en plus plébiscité par les consommateurs, mais il peine à se développer car il y a de très puissants lobbies hostiles, les grandes compagnies semencières, les fabricants de pesticides, de même que l'agro-industrie et la grande distribution. Cela étant, de nombreux jeunes agriculteurs font aujourd'hui le pari du bio ou bien de la production sous label de qualité. Portrait de deux d'entre eux dans Aujourd'hui le Parisien. Devenir agriculteur, même pas peur, assure-t-il. Mais dans Libération, c'est un autre son de cloche de vache évidemment, suscite paysans. La faucheuse est dans le pré en raison de graves difficultés financières. De plus en plus d'agriculteurs mettent fin à leurs jours. En 2010 et 2011, date de la dernière étude disponible, près de 300 suicides dans le monde agricole. Et selon la Mutuelle Sociale Agricole, un tiers des exploitants se sont retrouvés l'an dernier avec un revenu mensuel d'à peine plus de 350 euros. Confirmation dans le Figaro qui nous explique que 5 ans après l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, la France agricole est en mauvais état, mis à part la viticulture. Les clignotants de la ferme française sont tous au rouge, d'où le titre à la une du quotidien, les candidats à l'épreuve du malaise paysan.
En effet, presque tous les postulants à l'Élysée iront à la rencontre des agriculteurs.
À la question « Pourquoi ?», réponse d'Éric de la Chesnée, si l'électorat agricole est en diminution constante et ne représente plus que 2% des électeurs, son influence reste encore très importante. D'ailleurs, Si l'on tient compte des retraités agricoles, des salariés des coopératives ainsi que des enfants majeurs et des conjoints, le vote agricole représente en réalité 8% du corps électoral. Des électeurs qui, selon les derniers sondages, seraient d'ailleurs de plus en plus tentés par un vote pour le Front National. Voilà donc pour la réponse à la question pourquoi. Pourquoi se rendre au Salon de l'Agriculture quand on est candidat à l'Élysée ? L'autre question étant, comme on le soulignait tout à l'heure, quand, quel est le meilleur moment ?
Et là, chronobiologie oblige.
Eh oui, on va donner les jours de visite des principaux candidats.
François Fillon, ce sera notamment mardi et mercredi.
Des petites visites sur plusieurs jours et sans trop de publicité. Ceci nous explique toujours le Figaro pour minimiser les risques de manifestations hostiles dans les allées de la porte de Versailles. Et les dernières annonces le concernant ne devraient pas arranger les choses dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Le parquet a fait part hier soir d'une nouvelle étape dans son enquête avec l'ouverture d'une information judiciaire pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. La justice ne lâche pas, titre à sa une aujourd'hui le Parisien, précisant que le sort des Fillon est désormais entre les mains des juges. En l'occurrence, ils seront trois juges d'instruction. Si c'est une information judiciaire, il y aura une mise en examen inéluctable, estime dans le journal un ténor du parti Les Républicains et un autre de renchérir. On est tous très très inquiets. Lui qui commençait à redevenir audible sur le fond, ça va encore le ramener aux affaires. Vu le niveau des emmerdes, on n'est plus à ça près qu'on cède un troisième. François Fillon risque une mise en examen, confirme l'écho et républicain. L'étau se resserre, note de son côté l'indépendant catalan, tandis que Sud-Ouest évoque un nouveau coup dur pour François Fillon.
Et Marine Le Pen, elle, c'est mardi qu'elle se rendra au salon.
Et elle aussi a des problèmes avec la justice. Le Pen snob encore les policiers, titre ainsi le Parisien. La présidente du Front National a refusé d'être entendue dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif des assistants de son parti au Parlement européen. Et précise le journal, elle n'en est pas à son coup d'essai en la matière. Déjà en 2015, alors qu'elle était candidate au régional, elle avait refusé à deux reprises de répondre à une convocation dans le cadre de l'enquête portant sur le financement de son parti lors des élections de 2012. Déjà à l'époque, la fille de Jean-Marie Le Pen avait mis en avant son immunité parlementaire. Bizarre tout de même, s'étonne Vincent Manilev sur Slate.fr. En refusant d'être entendue par la police, la candidate du Front National contredit des années de discours pro-policiers. De son côté, c'est mercredi qu'Emmanuel Macron ira voir les agriculteurs. Toute la presse ce matin revient sur ses propositions en matière d'économie, des grands objectifs qui ne changent pas, mais des mesures qui permettent de se démarquer, notre Libération. Libé qui s'intéresse aussi à la campagne du candidat socialiste Hamon à la recherche de son élan primaire. Des organisations maladresses politiques depuis son élection surprise comme candidat du PS, l'ex-ministre n'a pas réussi à emballer la campagne. L'accord avec Jadot en poche, il cherche maintenant à se lancer dans une seconde phase. Et lui, c'est lundi qu'il est attendu au Salon de l'Agriculture.
Et Jean-Luc Mélenchon ?
Jean-Luc Mélenchon ne fait rien comme les autres. Il n'a sans doute pas le même système chronobiologique. Pas donc de visite au Salon de l'Agriculture pour lui, mais en début de semaine, il présentera son projet pour un modèle agricole alternatif dans une ferme de l'Oise. Jean-Luc Mélenchon, dont le dernier livre continue de très bien fonctionner en librairie, lire à ce propos le très intéressant papier de Mohamed Aïssaoui dans les colonnes du Figaro, l'édition française à l'heure de la campagne électorale. Très peu de livres pendant la campagne, très peu de romans, mais un petit livre, une histoire amusée des promesses électorales 1848-2017, c'est chez Taille Entier, un long catalogue des propositions faites en campagne et jamais tenues. On en cite quelques-unes, la fin du Sénat, le statut de fonctionnaire pour tous ou encore la suppression des mois de décembre, de janvier et de février pour abolir l'hiver. C'était Jules de Pâquis en 1920 à méditer pour tous les animaux politiques à méditer à l'heure du coq.
Je n'entends pas le son du coq.
Non, vous ne l'entendrez pas.
Merci Frédéric Pommier.